dit que ça dure. Ne soyez pas à moitié mort avant la fin du. La semaine dernière, à cette même place, il y avait Paul Graham qui nous a apporté une prédication sur le livre de Ruth. Et je ne sais pas vous, mais si vous avez été absent la semaine dernière, je vous encourage vraiment à aller voir Timothée ici pour prendre la prédication de Paul. On a été très nombreux, je crois, à être richement encouragés et édifiés par ce qu'il nous a apporté. C'était vraiment très très riche ce qu'il nous a partagé sur ce livre de Ruth. Donc si vous n'avez pas été présent, vraiment allez prendre cette prédication, réécoutez-la, c'était vraiment très très intéressant. Et il a commencé sa prédication en se positionnant de manière très humble dans une position de disciple, en se disant toujours, encore et toujours à l'écoute de l'enseignement du Christ et dans sa vie en continuel apprentissage. Il s'est positionné de manière tellement humble que moi j'étais assis là devant au premier rang, je le regardais et je pensais à une chose, je me disais dimanche prochain je prêche, et il met la pression là. Donc j'ai hésité à prêcher depuis la nurserie derrière pour essayer de me planquer. Finalement on m'a interdit ça, donc je me présente devant vous, mais je compte sur votre amour et sur l'amour du Christ qui est indéfectible. Donc Scott, tu pourras dire à ton père qu'il m'a fait passer une semaine atroce. Ça l'encouragera, tu verras, il sera heureux. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Marc, au chapitre 10. L'introduction de Jérémie, vos prières, les chants, la présentation de la scène faite par Michel. Dans cette prédication, il y a un peu de tout. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur d'avoir conduit ce culte de cette manière-là. Et je vous propose ce matin un petit voyage en Israël. Cette prédication, je l'ai intitulée Bartimée, puisque c'est le récit d'une guérison d'un aveugle qui s'appelle Bartimée, et qui va passer du brisement à la marche du disciple. C'est un texte que pendant très longtemps j'ai interprété en disant que c'est un récit de conversion, et uniquement un récit de conversion. C'est effectivement, je crois, une nouvelle naissance à laquelle nous allons assister, que nous allons lire. Mais c'est bien plus encore qu'une nouvelle naissance, c'est la mise en chemin d'un disciple. Et c'est sur cette notion de discipula et de mise en chemin du disciple, et on s'arrêtera uniquement dans cette prédication sur ce texte. Donc je vous invite à le laisser ouvert, à le relire pendant le temps de prédication aussi, de manière à bien nous en imprégner. Marc chapitre 10, les versets 46 à 52. Pour le contexte, Jésus est en chemin avec ses disciples. Ça fait 2,5 chapitres de l'évangile de Marc. D'ailleurs, 2,5 chapitres qui ont commencé par un autre miracle, celui de la guérison d'un autre aveugle. Ça fait 2,5 chapitres que Jésus montre clairement à ses disciples : je suis en chemin, mon plan de route est clair, je vais à Jérusalem. C'est Jérusalem le but, je monte à Jérusalem. Et pendant tout ce chemin, il va passer son temps à discuter avec ses disciples, à leur montrer ce que signifie le suivre par des paroles, par des actes. Et il est suivi par tout un cortège qui est constitué d'une foule, et puis bien sûr de ses 12 disciples que lui-même a choisis. Et il y a un moment, au verset 46, où ils arrivent dans une ville qui s'appelle Jéricho. Et lorsque Jésus, Marc 10, 46, en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant, aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Une nouvelle naissance. Magnifique, c'est toujours beau. Mais la mise en route aussi d'un disciple. La mise sur le chemin d'un disciple. Ce miracle est, je crois, un miracle très particulier dans l'Écriture parce que c'est le dernier. C'est le dernier miracle qui est relaté dans l'Évangile selon Matthieu, dans l'Évangile selon Marc, dans l'Évangile selon Luc. Après, on a des paraboles, les miracles, c'est terminé. Probablement, chronologiquement, dans le ministère de Jésus sur terre, c'est le dernier miracle aussi qu'il a accompli. Le dernier. Et quand on fait quelque chose pour la dernière fois, très souvent, on essaye d'y mettre un petit peu l'accent sur un peu la cerise sur le gâteau en disant « Je voudrais que vous reteniez ça. » C'est un drôle de choix que celui de Bartimée pour accomplir un dernier miracle. Il y a une expression que les jeunes utilisent beaucoup, en tout cas à l'université, là où j'enseigne, c'est le cas. Quand il y en a un qui me pose une question qui a l'air évidente, j'entends toujours dans un amphi dire « Mais t'es vraiment un cas !» Bartimée, c'était vraiment un cas. Et Jésus a croisé des cas tout le long de son ministère. C'est incroyable. Je veux dire, un aveugle mendiant, habitant Jéricho, on verra tout à l'heure le symbole de Jéricho, c'est une situation qui est très singulière. Et Jésus va choisir cet homme pour accomplir son dernier miracle. Quelqu'un qui n'était pas dans la norme. Dans Marc, c'est même le seul miracle où on connaît le nom du miraculé. Bartimée, fils de Timée. Il y a même une certaine insistance sur ce nom au verset 46, Bartimée, fils de Timée. Alors, de manière normale, on va dire, je me suis penché sur ce nom. Que signifie Bartimée ? Alors j'ai regardé dans ma Bible, et peut-être comme dans les vôtres, il y a des notes de bas de page, et j'ai regardé ce que signifie Bartimée, et là, ma Bible m'a beaucoup aidé, parce qu'en bas de page, c'est marqué « Bartimée signifie fils de Timée ». Ok. Merci. Donc, je me suis dit, ben, le traducteur a été un peu léger, ou le commentateur un peu léger, donc je me suis senti meilleur que lui, et j'ai voulu savoir qui était Timée. Bon, on va remonter le fil. Et j'ai compris pourquoi, en fait, ils n'ont pas traduit Bartimée. Parce que Bartimée, c'est un nom qui est un peu compliqué à traduire, ou plus précisément, c'est un nom très ambigu. Parce qu'il signifie deux choses qui sont diamétralement opposées. Bartimée peut signifier, d'une part, fils de l'impureté, ou fils de l'impur, mais il peut signifier aussi fils de l'honoré. Alors moi qui comptais me baser un petit peu sur la structure de ce nom pour en tirer un enseignement, je me sentais un peu mal embarqué dans l'histoire. Fils de l'impur ou fils de l'honoré? Alors j'ai creusé, j'ai écouté des prédications, j'ai lu tout un tas de textes, et figurez-vous que vous avez une partie des auteurs qui utilisent fils de l'honoré et l'autre partie qui utilise fils de l'impureté. Et personne ne tranche. Bon, si, c'est quand même bizarre que personne ne tranche entre fils de l'impureté et fils de l'honoré. Parce que si c'est fils de l'impureté, on peut dire que c'est un nom qui est dur à porter. Fils de l'impur, vous imaginez l'héritage ? Fils de l'impur, il est déjà mendiant, aveugle, et en plus il a un héritage d'impur, c'est-à-dire coupé de la société. Toi, tu dégages. C'est ça l'impur. Si c'est fils de l'honoré, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus simple pour lui à porter, parce que ça signifierait que son père a été honoré pour acte de bravoure, une décoration quelconque, en tout cas une personne qui était reconnue dans la société. Une personne, vous savez, de ces personnes que l'on appelle un monsieur. Et lui, Bartimée, il se retrouve là, fils de l'honoré, assis par terre, à devoir mendier pour sa subsistance quotidienne, à la merci du jugement et des dons des uns et des autres. Au final, Est-ce que cette difficulté de traduction n'est pas déjà un premier enseignement? La provenance de Bartimée. On se présente tous, je crois, dans la vie avec un héritage. Et quand je parle d'héritage, je ne parle pas d'argent. Vous m'avez bien compris, mais je parle plutôt de ce que nous ont légué en termes d'image. Comment est-ce que l'on est connu par nos parents? Cette semaine, la seule fois où j'ai regardé les informations télévisées quelques minutes, je suis tombé sur un reportage sur un homme qui était en train de, manifestement, qui a monté une pièce de théâtre. Et cet homme, dont je ne me souviens pas du tout le nom, faisait des choses, j'étais pas très sensible à ce qu'il était en train de faire du point de vue théâtral, mais en tout cas, il faisait des choses, ça avait l'air de plaire à certaines personnes. Et la commentatrice, en voix off, a dit à deux ou trois reprises que cet homme était le petit-fils de Charlie Chaplin. Il ne portait pas le nom Chaplin. Mais vous savez quoi? Je ne me souviens pas de son nom. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'il faisait. Je ne peux pas vous dire où est-ce qu'il se produit si vous voulez aller le voir. Je ne peux pas vous dire sa nationalité. La seule chose dont je me souviens, c'est que c'est le petit-fils de Charlie Chaplin. Un côté people, un peu. C'est dur parfois de porter certains héritages. C'est dur parce que on en perd son prénom. On devient vite le fils de ou la fille de. Et moi, en tant que père, j'essaie d'être particulièrement vigilant à ça, de manière à ce que mes enfants puissent développer leur propre identité, qu'ils puissent s'épanouir dans cette propre identité aussi, en apprenant modestement ce que j'ai pu apprendre de mes propres parents. Mais qu'ils aient leur prénom. Et mes amis, ce matin, j'aimerais nous encourager à nous connaître par notre prénom et pas par notre héritage, pas par notre hérédité. Moi, je connais des enfants de chrétiens qui ont porté un héritage lourd parce que leur père ou leur mère était monsieur ou madame un tel. Et c'est lourd. Et on est complice, quelque part, de faire porter ces héritages sur le dos de nos enfants. Et il faut être vigilant. Et je crois qu'en communauté, en église, il faut que l'on soit vigilant à ne pas stigmatiser. Ah tiens, un tel, c'est le fils de machin. L'héritage. Lui, c'était Bartimée, le fils de Timée. C'était la seule chose qu'il avait. Et même ça, pour lui, c'était lourd. Qu'il soit fils de l'impur ou fils de l'honoré, c'était lourd. Le deuxième enseignement que j'ai appris à travers ce nom, c'est qu'au final, ce récit, c'est un récit qui est un récit universel. Je trouve ça magnifique dans la Bible qu'il y ait tant de personnes qui nous soient décrites, qui sont des personnes singulières, mendiants, aveugles, à Jéricho. Il n'y a personne ici comme ça. Et pourtant, tout le monde peut se reconnaître à travers ce Bartimée. Parce que quelque part, il porte notre nom à chacun d'entre nous. Un peu fils de l'impureté, un peu fils de l'honoré, un héritage. On a tous ce type d'héritage, des casseroles à traîner, et puis en même temps des victoires aussi à étraîner. Ce récit vous est adressé. Je suis Bartimée. Ce récit parle de moi, il parle de toi. Et j'aimerais qu'on essaie de se l'approprier un petit peu plus en regardant cet homme, Bartimée. Cet homme, Bartimée, il habite dans une ville et il est posté à un lieu qui sont hautement symboliques. Jéricho. Jéricho, c'est une ville très symbolique dans la Bible puisque c'est une ville qui représente un petit peu l'épreuve. C'est la première ville que le peuple d'Israël va rencontrer lors de la conquête de Canaan. C'est la première épreuve à laquelle ils vont avoir à faire face dans cette conquête. Jéricho. Tout un symbole. Bartimée, lui, en tant qu'aveugle, il est posté à l'entrée, enfin à la sortie de la ville, mais en tant qu'aveugle, il ne peut pas habiter ailleurs qu'à Jéricho. Lui, il habite en plein dedans, comme un symbole. Bartimée, en plein dans le dur, en plein dans l'épreuve. Je ne sais pas si vous imaginez la vie de Bartimée. J'ai failli appeler cet intitulé « La galère de Bartimée ». Ouah, c'est dur, quoi. C'est dur pour lui. Il habite déjà cette ville de Jéricho qui est le symbole de l'épreuve. Il doit, ou il est, à la merci des autres pour tout. Il y a une chose sur laquelle il faut que je sois très vigilant dans ma vie, c'est que j'ai beaucoup de mal à me sentir en position de redevabilité. Demander un coup de main à quelqu'un sans pour autant, attendre un retour. Je veux bien rendre service à quelqu'un, mais s'il ne me le rend pas, à la limite, ça me met un peu en position de force et je me sens mieux, quoi. Ou au pire, je demande un service, il me le rend, un partout, balle au centre, on est quitte. Mais surtout pas en position de faiblesse. C'est une difficulté dans ma vie, ça, il faut que je les traîne au quotidien, il faut que j'y arrive à ça. Et c'est dur. Mais Bartimée, lui, il est redevable des autres pour tout, toute la journée, du matin au soir, quand il se lève, quand il doit chercher ses vêtements, quand il mange, quand il doit s'installer à son lieu de mendicité, quand il se déplace, etc., etc., etc. Tout est galère, tout est redevabilité pour lui. Comme pour parachever le symbole, Bartimée est au bord du chemin. Il n'est pas sur le chemin, il est au bord du chemin. Et vous savez, le chemin, c'est le symbole de la vie. C'est là où, comme le sang dans les veines, c'est là où les choses circulent. C'est là où les gens passent, c'est là où ils élaborent des projets pour l'avenir en se disant « ce serait chouette qu'on fasse ci, qu'on fasse ça ». C'est là où ils rencontrent, c'est là où ils discutent, ils échangent, ils partagent. Bartimée, lui, il est au bord. Comme s'il était au bord de la vie, presque pas vivant. Figure habituelle aux passants. Je le vois tous les matins en passant. Il est là. Quelque part, s'il n'est pas là, ça me manque. Parce qu'il manque un élément du décor. Mais cet élément du décor qu'est Bartimée, il faut que, chut, surtout, il ne le dérange pas. C'est bien, j'ai bien plombé l'ambiance, là. Au bord du chemin, un Bartimée à moitié mort, éteint, qui ressemble à rien. Quand tous les autres sont en mouvement, lui, il est assis à l'arrêt, sur la touche. Et vous savez quoi? C'est cet homme que Jésus va choisir pour accomplir son dernier miracle. Je trouve ça extraordinaire. Je me suis demandé aussi si dans ma vie, au quotidien, je ne m'étais pas créé des Bartimées de temps en temps. Le Bartimée du boulot. Vous savez, le gars avec qui il fait pas bon prendre son café le matin, quoi. Parce que, quand même, lui. Mon Bartimée de l'église. Le Bartimée de ma famille. Le Bartimée de mes amis. La personne qu'on veut bien voir dans le décor, mais surtout, s'il te plaît, tu bouges pas, tu ne me déranges pas, quoi. On a tous nos Bartimées. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai. Et il faut que je travaille de manière à le faire revenir sur le chemin, parce que c'est ce que Jésus a fait. Et vous savez quoi? C'est dans cette situation lamentable, catastrophique, qu'on peut estimer que Bartimée est prêt. Et je me suis dit qu'il était prêt, parce qu'il savait ce que ça voulait dire être dépendant, et que de l'orgueil, il n'en a plus. Il n'y a plus d'orgueil en Bartimée. Regardez comment il appelle Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quand on en est au point de demander la pitié des autres, l'orgueil, ça fait belle lurette qu'il est parti. Et c'est ce moment-là que Jésus choisit pour intervenir. Quelle magnifique école que l'église locale, je trouve, pour pouvoir exercer cette dépendance. Mais cette dépendance, elle est à double tranchant. C'est que si je compte sur toi et que je veux dépendre de toi et que toi tu me fais faux-bond, alors tu te transformes non plus en frère mais en pierre d'achoppement. Il faut que l'on soit vigilant quand on compte les uns sur les autres à ne pas se transformer en pierre d'achoppement les uns pour les autres, mais à pouvoir se comporter comme des frères, des sœurs qui peuvent se soutenir et qui peuvent vivre cette dépendance. Et l'église locale est vraiment une école magnifique pour cela. Et c'est là que le miracle arrive. J'ai marqué que ce miracle, en fait, c'était une histoire de conviction. Il est bizarre, ce miracle. Quand on le lit bien, on dirait que ce n'est pas un miracle. On dirait que, je veux dire, ça coule. Voilà, il est guéri, il recouvre la vue, et puis on continue. On ne voit pas trop le côté spectaculaire. On ne voit pas d'applaudissements de la foule. Chapeau l'artiste, hein, belle guérison. On ne voit pas un spectacle son et lumière au moment où il recouvre la vue. Mais il recouvre la vue. Un aveugle était aveugle, et maintenant, il voit. Marc ne nous donne pas les gestes de Jésus. On ne sait pas si, comme pour d'autres miracles, il a craché au sol, fait de la boue, a piqué la boue sur les yeux de l'aveugle. On ne sait pas tout ça. Est-ce qu'il a fait une imposition des mains? On n'en sait rien. Ce récit est tellement pudique. Parce que la situation de Bartimée, elle mérite la pudeur. Apprenons à être pudique aussi dans certaines situations et à faire les choses et en disant « va maintenant ». Marc s'attarde beaucoup plus sur les gestes et les attitudes et les paroles de Bartimée. Il ne dit même pas trop de choses sur celles de Jésus. C'est une histoire de conviction pour Bartimée. Vous savez, Bartimée n'a pas eu la tâche facile dans ce miracle. Les 12 disciples, eux, ils ont été appelés par Jésus. C'est Jésus qui s'est déplacé pour aller les chercher sur leur lieu de pêche, sur là où ils étaient en train de travailler, Matthieu, le péager, etc., etc. C'est Jésus qui s'est déplacé. Mais Bartimée, lui, il a suscité sa vocation à coups de hurlements, à grands cris. C'est lui qui est allé chercher sa vocation. Ça n'a pas été facile non plus parce que, alors qu'il était en train de crier, la foule lui disait « Mais tu vas pas te taire ? Reste dans ton coin ! Reste là, dans ton décor ! Surtout n'en sors pas ! » Il doit se battre pour se faire entendre. Peut-être qu'il ressent, lui qui ne voit pas, peut-être qu'il entend au fur et à mesure ce bruit, le brouhaha de la foule qui entourait Jésus, cette espèce de convoi là qui passait, peut-être qu'il entend s'éloigner, et il se met à hurler d'autant plus, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !»« Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Peut-être qu'il l'entend s'éloigner, et pour lui, il est hors de question qu'il laisse passer sa chance. Donc, il va m'entendre. Point. C'est pas peut-être qu'il va m'entendre, c'est il va m'entendre. Il est hors de question qu'il laisse passer sa chance. La conviction de Bartimée. Il n'a pas la vue, mais il a entendu Jésus passer. Il n'a pas la vue, mais il a des cordes vocales pour hurler « Viens mon secours ». J'ai trouvé ça magnifique de voir que quand, même pour un aveugle, il est possible d'en appeler à Jésus. Entendre et crier quand on n'a pas la vue. C'est aussi un enseignement, je crois, pour nous, sur notre vie de disciple. Utiliser ce qu'on a. Pas forcément attendre d'avoir l'équipement complet du guerrier, vous voyez. Mais s'il manque une pièce, c'est peut-être pour la mission que Jésus nous a confiée, on n'a pas besoin de cette pièce. Lui, c'était grave, c'était la vue, carrément. Utiliser ce que l'on a sur le chemin. C'est le Seigneur qui nous équipe. Le Seigneur lui a donné les oreilles et lui a donné les cordes vocales. Pour l'appeler, il n'avait pas besoin de la vie. C'est un exemple au sommet, on va dire, de la difficulté qu'a vécu Bartimée, et c'est le Seigneur qui l'a équipé. Il lui a donné ce dont il avait besoin pour qu'il puisse l'appeler. Ce qui m'a inquiété dans le disciple, c'est la foule. Cette foule molle. Et vous savez pourquoi elle m'a inquiété? C'est même pas tant parce qu'elle était molle. Elle m'a inquiété parce qu'elle va à Jérusalem. Et on peut se dire, voilà, encore une fois, quand on étudie un texte, c'est très symbolique d'aller à Jérusalem. C'est quelque chose, pour nous, il y en a qui traduisent ça en disant aller à l'église le dimanche matin. C'est bien au-delà de ça. C'est rencontrer son Dieu. Et cette foule, elle va mollement, elle suit comme un cortège Jésus, peut-être en espérant qu'il fasse encore une multiplication des pains pour aller glaner un petit peu à droite à gauche des choses. Cette foule molle, elle va à Jérusalem. Elle y va. Et je reprends là un enseignement qu'Arnaud nous a donné récemment. C'est que le chemin, la manière dont on arrive à un endroit est plus important que l'endroit où on va. Le chemin, plus que la destination. Comment on y va, plus que où je vais. Vous avez dit aveugle, mais qui est aveugle dans cette histoire? Qui est aveugle? Il y a une drôle de question que Jésus pose à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse dans les 100 blagues? Jésus demande qu'on verbalise les choses, que je recouvre la vue. La nécessité de prononcer, de verbaliser les choses. Bartimée n'est toujours pas guéri à ce moment-là, il ne voit pas, mais les cordes vocales, il les a encore pour le dire. Je veux recouvrir la vue. Et vous savez ce qui est, je trouve, dramatique? C'est que quelques versets avant, en Marc, je vous invite juste à tourner une page de votre Bible, peut-être pas la tourner, je ne sais pas, mais 10 versets avant, au verset 36 du même chapitre, Jésus est avec les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, 10 versets avant, et Jésus leur pose une question. Que désirez-vous que je fasse pour vous? La même qu'à Bartimée. Et voici la réponse des deux fils de Zébédée, de Jacques et de Jean, qui sont ses proches disciples. Donne-nous, lui dirent-il, d'être assis. Assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Quand Bartimée demande de recouvrir la vue pour marcher sur le chemin, eux qui ont suivi tous les enseignements de Jésus depuis le début, ils demandent à être assis. Quand ce qui intéresse Bartimée, c'est de se mettre en route, de pouvoir suivre Jésus sur le chemin et de pouvoir vivre ce chemin, vivre la vie, les disciples visent le royaume. Ils voient la fin et le chemin quelque part. S'en fiche un peu. Je trouvais ça fort d'enseignement pour moi et pour ma vie quotidienne. Est-ce que, parce que en tant que chrétien, nous sommes sauvés, nous allons rejoindre notre Père dans le royaume. Mais est-ce qu'au quotidien, ce qui n'est pas important, c'est de vivre le chemin? C'est comment nous allons marcher avec Christ sur le chemin et de ne pas nous occuper de la destination, mais de suivre Christ au quotidien, dans tous les détails de nos vies. C'est le seul dans tout l'évangile de Marc qui va appeler Jésus fils de David. Vous savez, à l'époque, on n'appelait pas fils de David n'importe qui, hein, parce que si vous appeliez quelqu'un fils de David, vous aviez des gros problèmes avec les autorités religieuses. Parce que c'était le Messie, fils de David. C'est celui qui était attendu. Et vous savez quoi? Bartimée attendait Jésus, fils de David, celui qui était attendu, ce sauveur. reconnaître sur mon chemin de disciple que Jésus, quel que soit le problème, Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie, et un frère l'a rappelé dans sa prière, a prononcé ce mot, le Messie. Jésus, le Messie, est ma solution. Quel que soit le problème, alors bien sûr, ça demandera des efforts, etc., etc. Mais au final, c'est toujours Jésus la solution. Et c'est ma solution. C'était la solution de Bartimée. Ce Jésus, le fils de David. Bartimée a tout misé sur Jésus. Il a tout misé sur Jésus. Il s'est levé d'un bond en laissant tomber son manteau. Alors ça aussi, c'est hautement symbolique. On n'a pas le temps de s'attarder sur ce geste. Bien sûr, ça veut dire qu'on laisse les choses du passé. Mais ça signifie aussi autre chose. C'est que ce manteau, c'était l'objet le plus rassurant qu'il avait. Quand il y avait un bruit inconnu qui se passait autour de lui, lui qui était aveugle, il pouvait s'agripper à ce manteau. Parce qu'il ne pouvait pas s'agripper à autre chose. Les gens passaient sur ce chemin. C'était son moyen de subsistance, c'était l'endroit où il récoltait l'argent, lui qui était passé au bord du chemin entre Jéricho et Jérusalem. C'était son seul moyen de subsistance. Il l'a laissé tomber. Parce qu'il a tout misé sur Jésus. Ça aussi, c'est riche d'enseignements. On n'a pas tous à tout laisser tomber au sens de Bartimée. Mais assez régulièrement dans nos vies, il y a des choses qu'on a à laisser tomber. Une carrière. Une maison. Un confort. On est bien entre nous. Des choses comme ça. On a tous, même dans des choses beaucoup plus petites, des choses à laisser tomber au fur et à mesure. Bartimée nous montre l'exemple ici. Il a tout misé sur Jésus. Et il a pris le risque d'entrer sur le chemin. Parce qu'entrer sur le chemin, c'est un risque. On ne peut pas rentrer sur le chemin sans manteau. Jésus ne donne pas de consigne à Bartimée à la fin pour savoir ce qu'il doit faire. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu retournes à ton poste de mendicité? Il aurait très bien pu le faire. C'est tellement rassurant de retourner à ce poste de mendicité. Un lieu qu'on connaît, on y est bien. Mais il a pris le risque, c'est un risque que d'entrer sur le chemin. Mais il a considéré ce risque. Un drôle de miracle qui n'en a pas l'air, tellement pudique. Vous savez, moi je crois que le miracle réel, c'est que tout ce qu'on a partagé jusqu'à maintenant, tout, pendant tout ce temps, l'homme n'était pas guéri. Pendant tout ce temps, il était aveugle. Et Jésus le guérit dans la deuxième partie du dernier verset. Il recouvre la vue au verset 52, tout à la fin. Tout le chemin, il l'a fait aveugle. Par la foi et pas par la vue. Quel enseignement pour moi, quel baffe il m'a mis ce Bartimée quand j'ai constaté que pendant tout ce temps, il aurait pu être guéri dès le début et puis ensuite, ben on discute quoi. Hein. Ben non, à la fin. Le chemin du disciple par la foi et pas par la vue. Et ça m'a fait penser à tout plein de références et je pourrais vous en donner quelques-unes si vous êtes intéressé. La foi vient de ce que l'on voit. La foi vient de ce que l'on entend. Et Bartimée, il avait les oreilles pour entendre Jésus passer. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Combien c'est important pour nous, et combien j'ai besoin, moi, de me plonger dans la parole de Dieu pour entendre la parole de Dieu. Bien plus que voir, entendre mon Dieu me parler. La dernière diapo, on l'appelle souvent conclusion. J'ai pas voulu l'appeler conclusion. C'est pas pour ne pas faire comme tout le monde, mais c'est parce que pour Bartimée, c'est le début. Ça y est, il est en chemin. C'est l'introduction pour lui. Tout commence à partir de maintenant. Vous vous rendez compte, il va enfin pouvoir voir avec ses yeux Jérusalem. Il va se mettre à la suite de Jésus, il va pouvoir aller jusqu'à Jérusalem, voir le temple. Il va pouvoir lui-même apporter l'offrande, peut-être. C'est quelque chose de monumental pour Bartimée. Quel symbole! Il va pouvoir aller à Jérusalem. Il m'est venu une pensée. c'est que si Bartimée peut monter à Jérusalem, c'est parce qu'il suit Jésus. Et vous savez quoi? 7 jours plus tard, Jésus sera sur une croix. Une semaine plus tard. Si Bartimée peut monter à Jérusalem, c'est parce qu'il a suivi Jésus. Mais c'est aussi parce que Jésus a accepté lui-même d'y aller, et pas de faire un détour dans son plan de route. Mais il a accepté d'y aller pour y mourir sur une croix. Si dans nos vies, nous avons à vivre des petits Jérusalem, si dans nos vies, nous vivons des victoires, dans nos vies de disciples, souvenons-nous toujours que c'est parce que Jésus a accepté d'aller à Jérusalem pour y mourir. À lui seul, soit toute la gloire.